Radio Kapi.
Le Rwanda a excellé dans la violation de l'intégrité territoriale de la RDC, un comportement interdit par les différents textes qui régissent la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. C'est la réaction du gouvernement congolais à la décision du Rwanda de se retirer de cette structure africaine. Vous entendrez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, dans quelques instants. Début hier, samedi, ici à Kinshasa, des travaux de démolition des constructions anarchiques sur la baie de Ngaliema. Léon Moulumba, ministre provincial de l'environnement, de la propriété et de l'embellissement de la ville, exprime la détermination des autorités de remettre cette partie de la capitale dans son état naturel. La conférence des gouverneurs pour cette année 2025 se tient du 10 au 13 juin à Kolwezi dans la province du Lualaba. À cette occasion, notre invité, le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabwankubi Moïse, nous parle de ses attentes. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. La RDC réagit à la décision du Rwanda de quitter la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. La position du Rwanda est cohérente vis-à-vis des différents textes qui régissent la CEAC, entre autres l'inviolabilité des frontières des pays membres, selon le porte-parole du gouvernement. Pour Patrick Mouyaya, le Rwanda a excellé dans la violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Il pense que cet exemple devrait inspirer d'autres institutions régionales. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, joint par Blaise Shindani Kambala.
Le Rwanda devrait être cohérent de lui-même vis-à-vis de ses actions. La CEAC, comme les autres organisations régionales, sont régies par des chartes. Et je pense que l'un des points principaux, c'est le respect et l'inviolabilité des frontières des pays qui sont membres. Et le Rwanda a excellé de ce point de vue dans la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que la CEAC avait déjà préalablement condamné les activités du Rwanda avec son supplétif sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et donc la position qu'elle a prise, elle est cohérente vis-à-vis aux différents textes qui régissent cette organisation. Et nous pensons que cet exemple devrait inspirer les autres institutions régionales parce qu'elle permettra à terme de les renforcer, parce qu'elles peuvent être en mesure de tirer les conséquences lorsqu'un État membre viole délibérément
les principes fondamentaux qui régissent ces organisations.
Mais qu'est-ce qui a poussé le Rwanda à prendre la décision de quitter la Communauté économique des États d'Afrique centrale? La réponse avec vous, Jacques-Yves Molima.
La conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, le CEAC, a prolongé samedi d'une année supplémentaire le mandat de la Guinée équatoriale à la présidence tournante de cette organisation sous-régionale au terme de la 26e session ordinaire de la CEAC tenue samedi à Malabo, capitale du pays, selon le communiqué officiel. En réaction, le Rwanda a décidé, selon un communiqué officiel relayé dimanche par des médias internationaux, de quitter la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, après que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale a pris la résolution samedi à Malabo de prolonger d'une année supplémentaire le mandat de la Guinée équatoriale à sa présidence tournante. Le Rwanda dénonce l'instrumentalisation de la CEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. En conséquence, le Rwanda ne voit aucune justification pour demeurer au sein d'une organisation dont le fonctionnement actuel va à l'encontre de ses propres principes fondateurs, a-t-on lu dans le communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères.
Merci à vous, Jacques-Yves Molima. Pendant ce temps, le pape Léon XIV appelle le monde à invoquer l'Esprit Saint afin qu'il ouvre les frontières intérieures dans les relations entre les peuples et qu'il abatte les murs et dissolve la haine, loin des préjugés et des logiques d'exclusion politique ou guerrière. Le souverain pontife l'a dit ce dimanche lors de la messe de la fête chrétienne de la Pentecôte célébrée au Vatican en Italie. On écoute un extrait de son homélie proposé par Alain Rungmushinge.
C'est précisément en célébrant la Pentecôte que le pape François a fait remarquer qu'aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de discordes, beaucoup de divisions. Nous sommes tous reliés et pourtant, nous trouvons déconnectés les uns des autres, anesthésiés frappe à l'indifférence et opprimée par la solitude. Les guerres qui agitent notre planète sont un signe tragique de tout cela. Invoquons l'esprit d'amour et de paix afin qu'il ouvre les frontières, abatte les murs, dissolve la haine et nous aide à vivre comme des enfants du seul Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, c'est la Pentecôte qui renouvelle l'Église, qui renouvelle le monde. Que le vin puissant de l'Esprit vienne sur nous et en nous ouvre les frontières de notre cœur, nous donne la grâce de la rencontre avec Dieu, élargissent les horizons de l'amour et soutiennent nos efforts pour construire un monde où règne la paix.
Pour sa part, le révérend André Bokundua, président de l'Église du Christ au Congo SCC et représentant légal de l'Église protestante en RDC, exhorte les Congolais à cultiver l'unité et la cohésion nationale. Cela en lieu et place d'entretenir des divisions internes dans leur milieu de vie respectif. C'est également au cours de sa prédication à l'occasion de la fête chrétienne de la Pentecôte. Comme annonce au sommaire, ici à Kinshasa, les travaux de démolition des constructions anarchiques sur la baie de Ngaliema ont débuté hier samedi. Selon le ministre provincial de l'Environnement, de la Propriété et de l'Embellissement de la ville de Kinshasa, il est temps de remettre la baie de Ngaliema dans son état naturel. On écoute les explications de Léon Moulumba au micro d'Alain Irunga.
Vous savez, baie de Ngaliema, c'est pas la première fois qu'on démolit ici. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou des lois sur lesquelles on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobila. Il n'y a pas eu un autre arrêté de démolition, c'est toujours le même arrêté. Mais ça, quand même, cette opération a été demandée au niveau national. C'est le conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on puisse démolir ici. C'est de remettre la baie de Ngaliema dans son état naturel. L'État sûrement a un projet ici et ils ont construit de manière anarchique. C'est cette occasion pour demander à nos frères congolais et Kinois en particulier, Kinois, de changer un peu de mentalité. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus, en termes de COP, qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Il n'y a pas eu de plan urbanistique ici. Ça, j'ai dit ça et je confirme, il n'y a pas de plan urbanistique. Les gens sont venus en avant-hier.
Et puis au Nord Kivu, plus de 200 moteurs hors bord et plus de 50 pirogues des pêcheurs congolais ont été libérés et restitués vendredi par la marine ougandaise. Ces matériels avaient été saisis par vague par la marine ougandaise sur le lac Édouard depuis plusieurs mois. La force ougandaise accusait encore une fois les pêcheurs congolais de violation des frontières liquides sur les lacs. Cette libération a été rendue possible grâce au plaidoyer mené par la délégation congolaise dont la FECOPEIL, Fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Édouard. Pour résoudre définitivement cette question, la FECOPEIL réitère sa demande au gouvernement congolais de réglementer la pêche sur le lac Édouard du côté congolais et d'engager également des discussions avec les gouvernements ougandais. On écoute Josué Mukura, secrétaire général de la FECOPEIL.
Nous voulons à ce que les gouvernements congolais et ougandais puissent s'asseoir pour essayer de régler cette situation-là. Il y a toujours la pêche illicite aussi qui exagère au niveau du Congo. Donc, parmi nos pêcheurs, il y a ceux qui sont arrêtés arbitrairement, mais la plupart traversent la frontière pour aller chercher les poissons en Ouganda. Et là, ils sont arrêtés, maltraités, et même il y a des morts. Nous avons perdu un jour plus de 18 pêcheurs en moins de 24 heures. Nous venons de récupérer plus de 200 moteurs et plus de 50 pirogues au niveau de l'Ouganda. Mais si les causes ne sont pas attaquées, ils vont encore arrêter. Et peut-être nous aussi, les Congolais, vont arrêter les pirogues de l'Ouganda et le conflit continue. Donc, pour rassurer qu'il n'y aura plus de conflit, la première chose, c'est baliser la frontière. Liquide. Deuxième chose, c'est réglementer la pêche au niveau du Congo. Nous sommes fatigués de plaidoyer et pourtant le problème, c'est question seulement de réglementer la pêche au niveau du Congo et respecter les accords entre les deux pays pour la gestion durable du lac Édouard.
Notez que depuis une dizaine d'années, les pêcheurs congolais sont régulièrement accusés par la marine ougandaise de violer les frontières aquatiques du lac Édouard. Des arrestations qui découlent parfois de la faible production des poissons dans la partie congolaise du lac, exacerbée par la pêche illicite. Les femmes sont appelées à promouvoir le leadership féminin et leurs droits. Cet appel leur a été lancé hier à l'occasion de la sensibilisation des femmes du bloc Cité canadienne situé à la rive droite de la rivière Tchopo à Kisangani. Cette activité a été organisée par Chilid Mengina Nyota Bendea. Objectif, sensibiliser les filles et les femmes afin qu'elles prennent conscience de leur rôle dans les processus électoraux. Les explications à Kisangani avec Jacques Mkonkole.
Au cours de cette sensibilisation, les oratrices du jour ont fustigé la faible participation des femmes aux activités politiques, malgré les efforts fournis pour la promotion de l'égalité des genres. En cause, les coutumes, le manque de soutien et la discrimination. Nyota Bendeya, l'une d'elles, donne la quintessence de son message.
Nous avons parlé aux femmes d'être conséquentes, que leur conscience travaille, de se mettre aussi au travail pour promouvoir le leadership féminin. Nous leur avons enseigné sur le droit de la femme, mais aussi sur le leadership féminin.
Les participantes n'ont pas caché leur satisfaction par rapport aux informations reçues. Elles se sont engagées à changer de fusil d'épaule et à s'impliquer dans les activités susceptibles de promouvoir leurs droits, comme l'explique Célestine Fatou, l'une d'elles.
Par rapport aux élections, on va demander aux femmes de faire la sensibilisation pour essayer de pistonner les femmes.
Parmi les recommandations formulées, les femmes de la cité canadienne souhaitent qu'elles soient accompagnées par d'autres séances similaires, ceci pour ne pas éteindre la flamme qui vient d'être allumée dans leur conscience. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans la ville de Beni au Nord Kivu, des casquets bleus de la MONUSCO ont participé hier aux côtés des autorités locales aux travaux d'assainissement communautaire dit Salongo. Depuis quelques semaines, le maire de Beni a institué ces travaux chaque samedi dans la ville pour lutter contre l'insalubrité. Pour le chef du sous-bureau intérimaire de la MONUSCO Beni, qui a pris part à ces travaux avec le commandant adjoint de la brigade d'intervention de la MONUSCO FIB, l'action des casquets bleus vise à contribuer à un environnement sain pour la population. Adam Obatoki Salami, dans cet extrait choisi par Martial Papimukeba.
C'est une action d'utilité publique. Nous vivons d'abord ici à Beni, dans une communauté. Et donc, le bien-être de la population, un environnement sain, ça nous concerne également, parce que nous sommes dans la communauté. Donc, c'est tout à fait normal qu'à l'occasion de l'opération de salubrité publique qui se déroule tous les samedis, que nous puissions également disponibiliser de notre temps pour participer aux côtés du maire à la salubrité de la ville. Deuxièmement, c'est également l'opportunité à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement de témoigner de notre solidarité et de notre engagement pour un environnement sain. Un environnement sain, ça signifie avoir une bonne santé. Ce n'est pas aujourd'hui que cette activité a commencé. Déjà, les Malawites, au cours des dernières semaines, ont participé déjà aux côtés du maire à cette activité de Salongo. Donc aujourd'hui, il y a une plus forte mobilisation avec le commandant adjoint de la FIB. Et donc, nous pensons que ce ne sera pas la dernière occasion pour nous de contribuer aux efforts du maire pour avoir un environnement sain.
Cette autre nouvelle, la gestion des entités coutumières et administratives a été au centre de l'atelier des formations des chefs de groupements, chefferies et secteurs, ainsi que des chefs des quartiers de la cité de Moba-Port et Kirungu. Le territoire de Moba a organisé cette activité de 4 jours qui a pris fin ce samedi. La formation vise la résolution des différents conflits qui existent dans ces entités. On écoute Victor Kanfoua, administrateur du territoire de Moba, dans cet extrait sélectionné par Pone Munanga.
Ce que nous attendons, c'est l'harmonie dans la gestion des affaires coutumières. Les entités soient bien gérées aussi entre chefs coutumiers et chefs de groupement qui puissent un peu s'identifier, se connaître et collaborer afin que le développement soit visible dans notre territoire. Et qu'ils puissent aussi essayer de déterminer ou de dénombrer les genres de conflits qui existent au sein de l'entité où chacun est chef et d'ensemble qu'ils osent trouver des solutions qui seront mises en application peu après. Revenir un peu sur la valeur ancestrale culturelle, ça va toucher tant soit peu aussi aux conflits orchestrés ça et là par rapport aux limites, par rapport à la succession, comme voulu d'ailleurs par le ministère national de l'Intérieur, parce qu'il y a eu des séminaires et des séminaires voulant éradiquer ce genre de conflits. Il va aussi parler de la création des CCRCC pour permettre au sein de chaque groupement de pouvoir poursuivre de près et résoudre les conflits qui existent.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, 3 jours après la radiation de l'opposant Tidjane Thiam de la liste électorale, son parti, le PDCI, tente toujours de réagir et de se mobiliser. À moins de 5 mois de la présidentielle, la formation politique a rassemblé ses militants ce samedi à son siège de Kokodé à Abidjan. Objectif, afficher l'unité derrière le chef.
L'invité.
Du 10 Au 13 juin prochain, il se tiendra au Lualaba la conférence des gouverneurs. Dans ce journal, nous recevons le gouverneur de la province du Maniema qui, avant de s'envoler pour Kolwezi, affirme que lui et sa population attendent beaucoup de cette rencontre car pour Moussa Kabankoubi Moïse, c'est un cadre qui permet aux responsables des provinces de présenter les états des lieux de leurs entités respectives. Moussa Kabankoubi Moïse s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Le gouverneur du Maniema va participer à la conférence des gouverneurs qui s'organise au Lualaba. Quelles sont les attentes du gouverneur et quelles sont les préoccupations du Maniema que le gouverneur va présenter au chef de l'État à l'occasion de cette rencontre?
Les conférences des gouverneurs sont un cadre de concertation entre Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les différents gouverneurs, dont le 26, pour passer en revue les situations particulières de chaque province. Donc, pour la province du Maniema, nous avons des problèmes en rapport avec la sécurité. En dehors de la sécurité, nous avons des problèmes en rapport avec les infrastructures, parce que la province est enclavée. Aujourd'hui, un sac de ciment de 50 kilos revient à 50 dollars à Kindu. Donc, à l'intérieur de la province, c'est au-delà de ça. Pendant qu'il coûte dans d'autres provinces en moyenne 10 dollars. Donc, c'est vraiment un problème pour nous. Donc, il y a ces besoins-là en termes d'infrastructures et des besoins sociaux. Donc, s'il n'y a pas d'infrastructures, certainement, il y a des problèmes de santé, d'éducation. Donc, pour nous, c'est une occasion de présenter les problèmes du Maniema à l'autorité suprême du pays et de voir des voies et moyens pour les résoudre dans son pays.
La population attend beaucoup de cette rencontre. Vous voir partir, est-ce que la population peut espérer quelque chose?
Bien sûr que oui, parce que si on espérait à rien, on ne pouvait pas se rendre là-bas. Donc, si nous nous rendons là-bas, c'est parce que nous avons cet espoir que nous serons entendus, surtout que Son Excellence Monsieur le Président de la République est très attentif aux problèmes des provinces. Donc, nous pensons que nous aurons des solutions au problème de la sécurité de notre province, au problème de la sécurité de la population, parce que nous avons un problème des effectifs, d'équipement. Nous avons déjà écrit, et ça c'est une occasion pour nous de parler, comme les gens le disent, en live avec les autorités du pays, pour parler particulièrement des problèmes du Maniema.
Mais il s'observe que quand il y a de telles rencontres, ce sont des recommandations qui sont notées et après c'est classé dans les tiroirs. Ça ne sera pas le cas pour cette fois-ci dans cette rencontre des gouverneurs avec le président de la République.
Ça, c'est vous qui me l'apprenez, que les recommandations sont classées dans les tiroirs. Mais moi, à ce que je sache, je sais qu'il y a des recommandations qui sont exécutées ou qui sont mises en œuvre. Et je suis confiant que les recommandations qui seront formulées à l'issue de cette conférence seront prises en compte.
Monsieur le gouverneur, un mot à la population.
Un mot à la population, c'est d'observer le calme. Nous sommes en train de traverser un moment difficile, mais on ne croise pas les bras. La population est en train de voir ce que nous sommes en train de faire du côté politique et sécuritaire. Aujourd'hui, il y a un moment où ça devenait difficile de dormir à Kindu, mais aujourd'hui, la situation est redevenue normale. Donc, j'insiste sur la mise en œuvre effective des Nyumba Kumi. Donc, nous devons savoir, nous devons identifier chaque ménage, les personnes qui y habitent et ce que font ces personnes-là. Donc, avec cette stratégie de Nyumba Kumi, nous pensons que la population du Maniema et de Kindu en particulier va se sentir en paix. En dehors de cela, nous avons beaucoup de chantiers dans le domaine des infrastructures et j'ai laissé des instructions claires lors du Conseil des ministres extraordinaire d'hier pour chaque ministre pour suivre les différents chantiers que nous avons dans notre province.
Ces chantiers sont financés par la province elle-même. Est-ce que ça peut être l'occasion aussi pour présenter au niveau national que vous puissiez avoir l'accompagnement national?
Bien sûr, la manière dont nous présentons les problèmes lors de ces grandes rencontres comme ça, ça commence toujours par les diagnostics, l'état des lieux de chaque province et les actions qui sont déjà menées et même leur financement ainsi que les perspectives. Donc pour nous, nous avons un très bon document qui présente bien la situation de la province du Maniema.
Les gouverneurs garantissent la population qui va bel et bien présenter les problèmes de la province au président de la République.
Bien sûr que oui.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabankoubi, merci.
Merci, Madame Florence.
Notre invité, Moussa Kabankoubi Moïse, répondait aux questions de Florence Kizalunga. Par ici s'achève ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rung. La mise en onde de Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengo Swalu et Alain Goy. La présentation de Grâce Amzati. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Merci.